Parlons d'argent.
Une chronique de l'UDAF 46 et de la Maison départementale des familles du Lot avec CFM. Dans le cadre de la semaine de l'argent organisée par l'UDAF du Lot et la Maison des familles départementales du Lot, on va se poser la question du couple et de l'argent. Pourquoi faut-il vraiment parler d'argent quand on est en couple ? Et est-ce que c'est surtout nécessaire d'ailleurs ? Ben vous allez le savoir avec notre invité qui est Lionel Tondeur. Bonjour Lionel Tondeur.
Bonjour Yannick.
Vous êtes correspondant régional de Finance et Pédagogie. Vous nous rappelez en quelques mots qu'est-ce que c'est que Finance et Pédagogie ?
Alors, Finance et Pédagogie est une association qui a une soixantaine d'années d'existence et qui réalise des opérations d'éducation financière sur toute la France, sur différents publics. On va de 7 à 77 ans.
Alors, vous êtes déjà intervenu dans le cadre des différentes interventions de l'UDAF pour parler justement de la gestion du budget, notamment chez les jeunes. Mais là on est surpris. Pourquoi parler de l'argent dans le couple ?
Alors, tout simplement parce que c'est un élément important de la vie de couple, l'argent. Il y a quelqu'un qui disait qu'on peut se passer éventuellement de sexe pendant une semaine, mais on peut pas se passer d'argent pendant une journée. Et donc, c'est moteur éventuellement de problèmes et de dissensions au sein du couple. À l'heure actuelle, on sait qu'il y a à peu près un quart des séparations qui sont liés à des problèmes d'argent. Et quand je dis problème d'argent, je ne parle pas forcément de manque d'argent d'ailleurs.
Alors quoi par exemple ? Si ce n'est pas des manques d'argent, c'est quoi ? C'est parce que par rapport à des achats, par rapport à des frais partagés ?
Exactement, il y a ça. Il y a d'abord parce que nous avons tous, en tant qu'individus, un rapport à l'argent qui est très différent d'une personne à une autre. Donc, pour des raisons diverses, ça peut être parce que notre culture, nos origines sociales, la façon dont nous avons été éduqués, éventuellement aussi d'ailleurs nos origines ethniques aussi, puisqu'on voit d'un continent à l'autre, le rapport à l'argent n'est pas le même. Et puis c'est aussi parce qu'entre hommes et femmes, parfois, le rapport à l'argent est très, très différent.
Est-ce que je dois comprendre, Lionel Tondeur, que c'est parce que dans un couple, chaque personne a sa manière de gérer son argent. Il peut y avoir, par exemple, quelqu'un qui est plus dépensier et l'autre qui est plutôt économe, je ne vais pas dire radin, mais plutôt économe, et que ça, justement, ça pose problème ?
Oui, effectivement, ça fait partie des éléments qui peuvent poser problème dans un couple. Et c'est quelque chose qu'il faut, entre guillemets, déminer pour être certain qu'il n'y aura pas de problème à venir futur.
Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait déminer quand on est dans un couple pour parler des... On parle bien de problèmes d'argent, tout ce qui est sentimental ou autre, c'est pas votre affaire, on est d'accord,
Absolument, absolument. Voilà.
Même si vous pouviez avoir l'expérience à donner à des jeunes couples, mais vous n'êtes pas là pour ça. Donc du coup, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on se retrouve dans une situation délicate à cause de l'argent dans un couple ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner précisément ?
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous parliez du fait que certains sont économes et d'autres sont peut-être plus dépensiers. Alors, il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon de gérer son argent. On peut tous avoir un rapport à l'argent différent, tout simplement. Parce que nous avons été éduqués dans des familles différentes avec, des possibilités liées à l'argent différentes. Si on constate par exemple que des personnes qui ont été élevées dans des familles où il y avait un manque d'argent qui était évident, les fins de mois étaient compliquées, et bien souvent ces personnes-là ont souvent tendance à être plus économes, alors que si j'étais élevé dans une famille où l'argent n'était pas un souci, et bien j'ai un rapport plus distancié à l'argent. Et donc ce qui est important, c'est justement au sein du couple de savoir comment l'autre fonctionne, pour quelles raisons il a finalement un rapport à l'argent différent du mien. Ça ne veut pas dire pour autant que ma façon de voir les choses est la bonne et la sienne soit très mauvaise. Et c'est là aussi justement pour ça qu'il faut en parler, parce que il faut être capable de trouver, au sein du couple, un terrain d'entente, en tout cas sur tout ce qui concerne le couple.
Parler d'argent dans le couple, vous n'y pensez pas, Lionel Tondeur ?
Mais au contraire. Et puis il faut surtout en parler quand on s'aime, justement. Souvent, on dit « Oh là là, parler d'argent alors que c'est l'amour, etc., c'est pas bien ». Mais si, au contraire. Il y a un dicton qui dit que quand on aime, on ne compte pas. Le problème, c'est que quand on n'aime plus, on compte tout. Et c'est là toute la difficulté. Donc justement, quand on s'aime, au contraire, il faut parler argent de manière à ce que ce ne soit pas, justement, ça ne devienne pas un problème et faire en sorte que ça ne vienne pas polluer, en quelque sorte, la relation de couple.
Mais d'accord, mais parler d'argent, pour quoi faire et pour se dire quoi surtout ?
Ben, tout simplement parce que quand on est un couple, on ne raisonne pas de façon individuelle, on est un couple. Et donc automatiquement, il faut faire en sorte de faire coordonner, j'allais dire, notre vision des choses et la façon dont on se projette. Et l'argent est un élément qui est indispensable et même, comment dirais-je, c'est l'élément indispensable dans justement cette projection que l'on a de l'avenir. Par exemple, est-ce que je veux devenir propriétaire, rester locataire? Il est bien évident que l'argent, ben, va être un maillon important dans cet objectif-là.
Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a ces discussions-là, il faut aussi que l'on imagine le pire? C'est-à-dire, d'accord, oui, on veut devenir propriétaire, mais que se passe-t-il si jamais on ne s'entend plus?
Oui, absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut raisonner aussi et réfléchir sur les aspects juridiques du couple, savoir est-ce que on reste en union libre, est-ce qu'on se pacte, est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on fait un contrat de mariage. Ça, c'est très très important parce que justement quand il y a une séparation, si rien n'est prévu, on voit bien que l'argent souvent est un motif pour entre guillemets et le terme est exact, régler ses comptes en fin de compte.
Est-ce que tout change de nouveau et qu'il faut rebattre les cartes, quand on a des enfants?
Alors, c'est un élément important parce que là aussi, finalement, quels sont les objectifs de l'un ou de l'autre éventuellement? Ça, on voit bien qu'entre hommes et femmes, souvent, et le rapport à l'argent est très révélateur, eh bien, on n'a peut-être pas forcément la même vision des choses ou la même façon d'aborder les choses.
Qu'est-ce qu'il faudrait prévoir quand on est en couple pour gérer son budget que l'on ne pensait pas quand on était seul?
Oh ben, tout simplement, déjà, comment est-ce que je fonctionne au niveau de mes comptes bancaires, par exemple, C'est très basique, mais c'est ça. Est-ce que finalement, est-ce qu'on fait un pot commun quelque part, ou est-ce qu'on continue à gérer l'argent chacun de son côté, ou est-ce qu'on fait un mixte des deux? Donc ça, c'est très important aussi. Parce que ça va conditionner justement la façon dont on va gérer son argent.
Parce qu'il faut se poser la question, si on veut ouvrir un compte courant commun, c'est qu'il y a des, on va dire, un côté positif, mais il y a aussi le côté négatif à prendre en compte peut-être.
Ah, tout à fait, c'est-à-dire que les conséquences, par exemple, sur un problème lié au compte, on va parler par exemple d'une interdiction bancaire, eh bien les conséquences sont pas les mêmes suivant si on a un compte joint ou des comptes simples. Voilà, c'est pas du tout les mêmes résultats que l'on a suivant ce type de compte-là.
Concrètement,
ben, disons que par exemple si vous avez un compte joint et que votre interdiction concerne votre compte joint. Et quand bien même sur ce compte joint, parce qu'on le voit souvent, c'est il y a compte joint, mais en vérité, il y en a qu'un des deux qui gère réellement le compte. Ça arrive fréquemment. Eh bien, il faut savoir que les deux éléments du couple sont obligatoirement interdits bancaires. Donc, ça rejaillit sur leur compte simple s'ils en ont un par ailleurs. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est un élément.
Le comportement de l'un des membres du couple peut mettre en péril la vie des deux, quoi, en gros.
Tout à fait, absolument.
Et ce qui est encore plus délicat quand on a effectivement des enfants. Alors, vous, à Finance et Pédagogie, qu'est-ce que vous conseillez aux couples pour gérer leur argent?
Alors, déjà, tout simplement, je crois que ce qui est important, c'est de discuter tout ça en amont, de discuter argent en amont et d'essayer de définir comment l'autre raisonne et d'essayer de justement à partir de là, de définir qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre en place juridiquement de manière à se protéger l'un et l'autre et de faire en sorte que l'argent ne constitue pas un problème ni au présent ni au futur.
D'accord, mais quand on est un jeune, on n'a pas spécialement l'expérience de la gestion du budget. Si on a 20 ans et qu'on s'installe en couple maintenant, on a forcément moins d'expérience qu'avec que si on en a 40 et que l'on se met en couple.
Ah, ça, je suis absolument d'accord. Et c'est d'ailleurs justement un gros problème, et c'est aussi d'ailleurs peut-être que pour ça, nous, en tant qu'association, nous existons, c'est que l'argent ne s'apprend pas à l'école déjà, et que parfois, on n'en parle pas dans les familles, en tout cas en France, parce que l'argent est encore un sujet qui est souvent tabou. C'est assez amusant de voir d'ailleurs que justement au niveau des couples, on parle plus facilement de sexualité que d'argent. Donc ça, c'est une tendance. Et donc, l'éducation financière, c'est un élément important aujourd'hui et on ne le développe pas assez. Donc c'est vrai que des structures comme la nôtre, mais il y a d'autres associations aussi qui s'occupent d'éducation financière, nous existons, c'est parce qu'il y a un manque, il y a un trou dans la raquette et il faut absolument s'informer et essayer de participer en quelque sorte à des ateliers budgétaires, entre autres, pour apprendre. On ne change pas les personnes, hein. Je veux dire, pas là, on ne va pas dire aux personnes c'est bien ou c'est pas bien. Simplement, par contre, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre façon d'aborder les questions d'argent, par rapport à votre façon de dépenser, voilà les précautions à prendre ou voilà ce qu'il faut faire pour éviter tout problème.
Est-ce que ce sont les couples qui sont les plus fragiles financièrement qui sont les plus en danger ou est-ce que c'est peut-être une idée ?
Non. Alors, c'est vrai que parfois, le manque d'argent ou les difficultés d'argent intensifient les problèmes du couple. Mais c'est pas forcément le manque d'argent qui fait que les couples se séparent. Parce que parfois, justement, quand vous manquez d'argent, vous êtes plus solidaires, on va dire, vous affrontez ensemble une difficulté. Donc, c'est pas forcément le manque d'argent. Ça peut intensifier les problèmes, mais ce n'est pas forcément le manque d'argent qui fait qu'on va avoir ensuite une possibilité de séparation.
Est-ce que vous avez des outils à conseiller justement pour les couples, hein, alors de tout âge, on précise bien, on ne parle pas forcément que des jeunes, hein, parce que ça concerne tous les âges.
Écoutez, d'abord, des outils, c'est simplement peut-être le meilleur outil, c'est le dialogue, s'expliquer l'un l'autre, essayer de comprendre l'autre. C'est d'ailleurs intéressant, parce que parfois certains comportements s'expliquent. Moi, j'ai souvenir, par exemple, d'un couple où la jeune femme était assistante sociale et le mari, donc je n'ai plus en tête sa profession, mais elle m'expliquait qu'elle était très, très, très épargnante, même au-delà de ce que souhaitait son mari, qui évidemment enrageait un petit peu d'être, contraint dans les dépenses. Très, très... Et tout simplement, pourquoi elle était comme ça ? Tout simplement parce qu'elle avait vécu dans une famille monoparentale, c'était sa mère qui l'avait élevée, le papa ne payait pas la pension alimentaire, sa maman était, je crois, hôtesse de caisse, enfin à temps partiel, donc les fins de mois étaient très, 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 très compliquées, et elle s'était dit, je ne veux pas revivre ça, moi, et faire vivre ça à mes enfants, le fait du manque, les difficultés financières, et donc à partir du moment où elle a commencé à travailler tout, elle est devenue épargnante, de manière à ce qu'au cas où il y a un pépin et tout ça, eh bien on ne subisse pas le manque d'argent. Mais par le fait d'être à la limite quelque part trop épargnante, finalement, elle faisait subir des contraintes, que ce soit à ses enfants ou à son mari. Et donc, il fallait tout simplement en discuter, puis essayer de trouver un terrain d'entente dans le couple pour que ça puisse fonctionner.
Et alors, comment on trouve un terrain d'entente dans cet exemple, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils ont pu se décider pour qu'on puisse imaginer effectivement comment ça doit se dérouler cette négociation, je veux dire, dans le couple ?
Tout simplement, par exemple, raisonner en termes de besoins et d'envie, c'est-à-dire finalement, ok, on va faire attention à notre budget, on va d'abord définir nos besoins, tout ce qui est les charges fixes, par exemple, ou contraintes, et puis ensuite voir à partir du reste à vivre qu'il y a, c'est-à-dire entre les revenus et une fois que j'ai payé mes charges, de quel argent je dispose. Et qu'est-ce que je peux consacrer finalement à la réalisation de mes envies et dans la vie quotidienne, tout simplement.
Est-ce que vous avez une idée, Lionel Tondeur, de est-ce que vous pouvez donner en tout cas un découpage d'un budget en parlant en pourcentage? Quel pourcentage de mon budget je dois mettre pour les frais fixes, pour les loisirs, etc. Pour nous donner une idée un petit peu de ce que ça peut être un budget? Parce qu'il y a énormément, et ça, je l'ai constaté aussi, et je pense que vous, dans votre fonction aussi, il y a quand même beaucoup de personnes qui, finalement, ne savent pas vraiment quels sont réellement leurs besoins, quoi.
Alors, justement, il n'y a pas forcément des pourcentages types à respecter. Simplement, par contre, votre budget va se découper en trois parties au niveau des charges. Vous allez avoir d'un côté donc ce que j'appelais tout à l'heure les charges fixes ou contraintes, c'est-à-dire tout ce que vous êtes tenu de payer. Par exemple, c'est votre loyer ou votre remboursement d'emprunt si vous avez acheté, si vous avez fait un prêt pour acheter une maison, l'EDF, enfin l'énergie, l'eau, les impôts, les assurances. Donc tout ça, il faut le prévoir dès le départ dans votre budget. Ensuite, les deux autres postes qui sont importants, c'est ce qu'on appelle les charges variables courantes, c'est-à-dire tout ce qui correspond à vos besoins quotidiens, c'est-à-dire manger, s'habiller, voilà, acheter des produits ménagers pour l'entretien de la maison, des choses comme ça. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui correspond aux charges occasionnelles ou facultatives, c'est-à-dire ça correspond plus souvent aux envies que l'on peut avoir, c'est-à-dire ça va être les loisirs, ça va être par exemple de l'électroménager pour mieux s'équiper, pour vivre plus mieux en quelque sorte, voilà. Et donc c'est cette répartition qu'il faut établir. Mais après, justement, chaque personne étant très différente, il faut voir comment j'assure cet équilibre là. Prenez l'exemple, par exemple, de la cigarette, le tabac. Pour certains, ça va être considéré comme une charge facultative parce que je fume pas ou je suis vraiment un fumeur très occasionnel. Donc, pour moi, c'est pas important. C'est quelque chose dont je peux me passer. Mais pour d'autres, c'est un élément de dépense important qui correspond à une charge courante parce que j'ai besoin de mon paquet de tabac quotidien. Et donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à répartir et à réfléchir quand on est établir son budget.
Vers qui on peut se faire aider, si besoin ?
Alors, écoutez, soit vous pouvez participer à des ateliers collectifs comme ceux que l'on mène sur certains organismes, mais sinon vous avez quand même aussi des applications qui existent. Vous avez par exemple une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone qui s'appelle Pilote Budget, qui vous permet justement de calculer tout ça, c'est-à-dire que vous notez tout simplement d'un côté vos ressources, vos revenus, tout ce que vous percevez sur le mois, et de l'autre côté, justement, vous indiquez vos charges, tout ce qui est les charges fixes ou contraintes, par exemple. Et à partir de ce moment-là, ça vous calcule ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire de combien il me reste tous les mois à dépenser. Donc, à partir ensuite, ce que vous pouvez avoir, donc déjà, ça vous donne un ordre d'idée de la possibilité de vos dépenses du mois. Et puis ensuite, il y a une autre application qui est pas mal faite, qui a été mise en application depuis le mois de février de cette année. C'est une application qui s'appelle Pilote Dépenses. Et donc, vous notez justement votre reste à vivre du mois. Et à chaque fois que vous faites une dépense, eh ben, vous la signalez. Vous dites, par exemple, j'ai fait de l'essence pour 50 €. Ou alors j'ai fait des courses pour 100 €, ou j'ai acheté du pain, j'ai acheté, ou j'ai fait un cadeau pour 20 €, etc. Donc vous indiquez toutes vos dépenses et il y a un compteur qui vous permet de vous situer très rapidement sur le mois où est-ce que vous vous situez. Est-ce qu'il faut que je freine mes dépenses parce qu'attention, le compteur est en train de se remplir trop vite, ou au contraire, est-ce que j'ai une marge de manœuvre et tiens, je me posais la question, est-ce que je peux me permettre une sortie ou un week-end, etc. Donc voilà, ce sont les deux applications que je conseille aux personnes qui veulent se donner un petit peu plus de cadre et de mieux définir leurs possibilités de dépenses.
Et c'est plutôt bien parce qu'évidemment, c'est une charge, excusez-moi le terme, mais c'est chiant quoi, quand il faut à chaque fois répertorier ses dépenses sur un cahier, recalculer, etc.
Tout à fait, oui, absolument. Et puis en plus, les applications sont gratuites. Elles sont pas connectées non plus à Internet, ce qui fait que quand vous l'avez sur votre téléphone, les informations que vous notez ne sont accessibles à personne. Ce sont vraiment vos propres informations que vous avez pour vous. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, j'allais dire, ça permet en un clic de rapidement de voir où est-ce qu'on en est et sans avoir en permanence à vérifier ses comptes parce que on le sait bien, on regarde pas ses comptes bancaires au jour le jour. Alors, sauf parfois, effectivement, quand on a des soucis d'argent, où là, on est peut-être plus attentif dans ces cas-là. Mais ça permet en même temps aussi, justement, de réfléchir à la stratégie qu'on va avoir sur l'argent. Et puis, quelque part, de mieux le vivre et de se dire, justement, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour mieux vivre, mieux en profiter, peut-être prévoir des choses éventuellement, épargner ou avoir des objectifs plus tard d'achat.
Donc, pour résumer, il ne faut pas que l'argent soit un sujet tabou et ne pas avoir honte d'en parler.
Tout à fait, absolument.
Merci Lionel Tondeur, vous êtes correspondant régional à l'association Finance et Pédagogie. Merci de nous avoir parlé de cette, de ce, bon, c'est pas un problème, mais de ce sujet en tout cas, de l'argent dans le couple. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à vous.
Cette émission a été faite en collaboration avec l'UDAF du Lot. Vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur cfmradio.fr.